Bonjour ou bien rebonjour, 11h TU, 13h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, Israël et l'Iran s'accusent mutuellement de raids aériens et de tirs de missiles au lendemain de la vaste offensive lancée par l'État hébreu. Les sirènes d'alerte ont retenti dans tout Israël, y compris Tel Aviv et Jérusalem, poussant les habitants à se précipiter dans des abris. Tout l'espace aérien de l'Iran restera fermé jusqu'à nouvel ordre, de même que l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv. Au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Iran accuse les États-Unis d'être complices des attaques israéliennes. Également dans l'actualité, calme précaire aux États-Unis avant les manifestations prévues dans l'ensemble du pays contre la politique de Donald Trump. Et dans l'actualité économique, une opération géante dans le secteur de l'acier. L'américain US Steel est racheté par le japonais Nippon Steel. Au Moyen-Orient, la dynamique guerrière tant redoutée est enclenchée. L'attaque massive lancée vendredi par Israël contre l'Iran a été suivie de représailles. Depuis hier soir, le territoire israélien est attaqué à coups notamment de salves de missiles. De sources israéliennes, environ 150 missiles balistiques tirés depuis hier en 3 salves. L'Iran affirme que sont visées des bases et des infrastructures militaires. La population israélienne, notamment dans la région de Tel Aviv, vit au rythme des sirènes d'alerte et des appels à se réfugier. L'État hébreu déplore au moins un décès et 40 blessés. On a aussi appris ce matin que l'aéroport international Ben Gurion, situé près de Tel Aviv, resterait fermé jusqu'à nouvel ordre. Guilhem Deltaï, bonjour.
Bonjour Gilles.
Voyons avec vous où en sont les attaques israéliennes. Un deuxième jour d'opération est en cours.
Oui, dès hier, avant même les représailles iraniennes, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait annoncé que les opérations israéliennes dureraient plusieurs jours et l'aviation israélienne a donc mené de nouvelles frappes. Ce samedi, selon les agences de presse iraniennes Fars et Mer, 4 provinces de l'ouest et du nord-ouest du pays ont été touchées dans la matinée. Les villes ciblées abritent des bases militaires importantes pour l'Iran. Les bombardements israéliens s'étaient aussi poursuivis dans la nuit. Des sites nucléaires à Ispahan et Fordo avaient alors été visés. Mais l'armée dit aussi avoir touché des cibles militaires. Elle affirme qu'elle a notamment détruit des défenses aériennes dans la région de Téhéran, ainsi que des lanceurs de missiles sol-sol, des dizaines d'entre eux, précise-t-elle. Dans un communiqué, son chef d'état-major assure procéder conformément au plan opérationnel. Dans ces menaces, Israël vise désormais la capitale iranienne, Téhéran. Les voies vers l'Iran ont été ouvertes et les chasseurs sont prêts à recommencer à frapper des cibles à Téhéran, indique le communiqué du chef d'état-major. Le ministre de la Défense promet même lui que la ville brûlera, si dit-il, le guide suprême iranien continue de tirer des missiles sur le front intérieur israélien.
Guilhem Deltaï, merci à vous. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier soir à New York. L'Iran a accusé les États-Unis d'être complices des attaques d'Israël, l'accusation rejetée par la diplomatie américaine. Les autres membres du Conseil ont appelé à la retenue dans la région. RFI recevait ce matin une spécialiste de l'Iran, Firouzeh Nahavandi, professeure émérite à l'Université libre de Bruxelles. Julien Coquel-Rohem l'a interrogée sur l'état de la population iranienne. Elle est partagée.
La population iranienne est assez partagée. C'est aussi pour cela que Netanyahou fait régulièrement des appels à la population iranienne. Dans la mesure où il y a un risque quand même qu'une réaction nationaliste ressoude la population derrière le régime, en tout cas une partie de cette population, mais dans le même temps, beaucoup se réjouissent des interventions israéliennes parce que cela pourrait aboutir à la chute du régime.
On pourrait voir un durcissement en termes de politique intérieure, en termes de contrôle sur le pays, si le pouvoir se sent menacé ?
Je crois que oui. Je crois que ce pouvoir, dès qu'il se sent menacé, durcit sa répression interne et donc, à l'heure actuelle, va essayer de voir où sont les traîtres qui ont aidé Israël dans ses manœuvres et, en tout cas, pour contrôler la population, va aller plutôt vers la répression qu'autre chose.
C'était Firouzeh Nahavandi, invité de RFI Matin. Parmi les réactions, celle du pape Léon XIV, il a lancé ce matin aux deux protagonistes un appel à la responsabilité et à la raison. Nul ne devrait jamais menacer l'existence de l'autre, a-t-il notamment affirmé lors d'une audience publique à la basilique Saint-Pierre. au deuxième jour de la confrontation Israël-Iran. À suivre dans RFI Midi à 14h, une programmation spéciale avec pour invité l'ambassadeur d'Israël à Paris et sur RFI.fr, le live blog de la rédaction Internet. En France, une marche de soutien aux Palestiniens s'élancera demain, dimanche à Paris, en direction de Bruxelles, à l'appel de syndicats et d'associations. Les organisateurs veulent faire pression sur les autorités européennes pour qu'elles prennent des sanctions contre Israël et que cesse le massacre à Gaza. La Ligue des droits de l'homme est l'un des organisateurs. Dans l'actualité économique, une opération de taille XXL dans le secteur de la sidérurgie. Le géant japonais Nippon Steel salue un partenariat historique conclu avec son rival américain US Steel. Donald Trump a en effet donné son feu vert au rachat historique de la multinationale américaine. Intervenu après 18 mois de négociations, Nippon Steel va débourser plus de 14 milliards de dollars pour acheter son principal concurrent, auquel s'ajoutent 11 milliards d'investissements à réaliser d'ici à 2028. Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour.
Vous nous en dites plus sur cette opération qui intervient, Anne, dans un contexte mondial très tendu dans l'acier.
Oui, pour Nippon Steel, ce qui devient d'ailleurs le numéro 3 mondial de l'acier avec ce rachat, le pari est en effet très risqué, avec le risque de lourdement s'endetter dans un marché où domine la surproduction chinoise et où la demande d'acier est en berne et où les surtaxes américaines de 50% sur l'acier rendent l'horizon très incertain. Les négociations, elles, vous l'avez dit, ont été très longues, interrompues lors du mandat de Joe Biden, et elles ont reprise avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le rachat a été l'objet d'une forte opposition aux États-Unis et a été un sujet majeur de la dernière campagne présidentielle. Parmi les points de crispation, des questions relatives à la sécurité nationale. Un accord semble avoir été trouvé, d'après Donald Trump, mais on n'en sait pas plus. US Steel conservera son siège à Pittsburgh et restera américain. Le président américain a sans doute obtenu d'autres concessions, lui conférant notamment un droit de regard sur certaines décisions stratégiques de l'entreprise. Reste que les États-Unis devraient largement bénéficier de ce rachat grâce à une stratégie de croissance avec à la clé notamment la construction d'une nouvelle aciérie pour 4 milliards de dollars et la création de 70 000 emplois supplémentaires si l'on en croit Donald Trump.
Anne Verdaguer du service éco de la rédaction, merci à vous. En Inde, avec un total d'au moins 279 morts, le bilan de l'accident de l'avion de la compagnie Air India jeudi s'est alourdi. Le Boeing 787 transportait 242 personnes à destination de Londres. Il s'est écrasé peu après le décollage sur un quartier résidentiel d'Ahmedabad dans l'ouest de l'Inde. Seul un passager a survécu. Calme précaire aux États-Unis avant les manifestations prévues dans l'ensemble du pays contre la politique de Donald Trump. Des opposants se réuniront sous le slogan « No kings, pas de rois ». Des manifestations sont prévues dans une centaine de villes. On verra dans le même temps la grande parade militaire voulue par le président américain pour les 250 ans de l'armée américaine. Donald Trump a voulu fêter en grand cet anniversaire qui tombe aussi le jour de ses 79 ans. Coût de l'opération, 45 millions de dollars. Une parade militaire donc chère et rare qui provoque de nombreuses critiques. On écoute Elisabeth Shepard Selam, spécialiste des États-Unis.
C'est absolument pas dans les habitudes américaines. Des défilés pour des sportifs dans leur ville natale, bien évidemment. Mais on ne déplace pas, en plus pour des raisons aussi logistiques, financières, sécuritaires, on ne déplace pas autant de chars, de militaires aux États-Unis, ça ne fait pas partie des traditions américaines. On l'a entendu même d'un certain nombre de sénateurs qui, à la base, s'étaient ralliés à Trump, comme le sénateur de Kentucky, Rand Paul, qui a dit que les seuls endroits où on voyait quelque chose comme ça, c'était à Pyongyang et à Moscou, et d'autres républicains qui se sont interrogés sur le coup. C'est pas quelque chose aux États-Unis qui est considéré comme approprié ou normal. Beaucoup d'experts, beaucoup de militaires, de politique. On parle du fait que c'est plus pour lui que pour vraiment célébrer ou fêter les forces armées. Il n'a pas vraiment un respect pour l'armée, ni pour les sacrifices que font beaucoup de nos militaires, mais il a une fascination pour la force.
Elisabeth Shepard Selam avec Marine de la Moissonnière. Donc ce sont les 250 ans de l'armée américaine. Autre anniversaire cette fois en Europe, les 40 ans de l'espace Schengen, espace de libre circulation des personnes. Une cérémonie a lieu aujourd'hui à Luxembourg. Un mot de l'actualité politique en France avant de conclure. Olivier Faure officiellement reconduit à la tête du Parti Socialiste. Un peu plus de 51% des voix ce matin au deuxième jour du congrès de son parti à Nancy dans l'Est de la France. Olivier Faure a devancé son principal concurrent Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. Très bonne journée sur RFI. Elle continue avec Carrefour du Maghreb.